toutes et à tous, bienvenue dans Au fil des bobines, l'émission de cinéphiles sur Studio Zef 91.1 FM. Aujourd'hui, nous allons parler de deux films, Atlantic Bar et Le Retour des Hirondelles. Pour en parler, j'ai quelqu'un qui devient un habitué de l'émission. Je crois que c'est sa quatrième, cinquième participation, c'est Guillaume. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Content de t'avoir à nouveau dans l'émission.
La réciproque est vraie.
Super. Nous allons parler, pour commencer, d'Atlantic Bar de Fanny Molin, film qui est déjà dans la programmation de cinéphiles depuis une semaine et qui sera projeté demain en présence de Thomas Polo, qui est... un membre de l'Acide qui soutient, un cinéaste membre de l'Acide qui soutient le film, qui l'a accompagné. Il sera là pour nous présenter pour eux et pour continuer de le défendre.
Jean-Jacques! Jeep, je laisse ta plage!
Voilà! Voilà!
Non, je cherche l'inspiration.
Cherche.
Bien sûr! La trouverai-je ou la trouverai-je pas?
Non, c'est populaire. C'était comme à l'époque le foot, c'est populaire.
Oui, Rose, il y a un gros souci au bar.
Je vous ai fait parvenir le 6 juillet 2021 un courrier vous informant de la mise en vente de mon bar Atlantique à Arles.
Vous n'êtes pas propriétaire, c'est ça le problème.
On est des petits bourrins, eux, c'est les riches sans respect, sans rien.
On aurait 40 ans de moins. Oh, ça me balonnait, hein. Oh,
Dieu. Mais t'es pas assez méchant.
Moi, je peux me lever le matin, hors dans une glace. Tu t'es investi, les gens sont habitués, t'as le quotidien. Donc ces gens-là, ils ne méritent pas d'avoir mon bar.
Et puis il y a un petit pot aussi avant.
Et à partir de 19h30, vous pouvez venir avant, il y aura un petit pot qui sera offert par Cinéphile, histoire de se mettre dans l'ambiance du film, parce que justement le film, quoi il cause, Guillaume? Parce que en quoi ce petit pot sera tout à fait, convenu,
nécessaire. Introductif. ce film est un documentaire sur un bar dans la ville d'Arles, ville d'Arles qui a connu beaucoup, beaucoup de changements ces derniers temps, changement sociologique, le festival de photographie qui dure l'été a déjà focalisé pas mal les regards des cultureux du coin et c'est devenu un festival majeur. La population a aussi changé et est devenue de plus en plus riche dans une région où il y avait une vie populaire assez développée et pas forcément aussi élitiste, parce qu'on va voir que effectivement la politique culturelle de la ville est un peu différente. Et donc les bars qui étaient des bars populaires sont de plus en plus remplacés par des bars huppés, des bars un peu chers, l'immobilier s'emballe, les prix s'envolent aussi. Et ce bar qui s'appelle Atlantic Bar devient un îlot de résistance à la gentrification d'Arles.
C'est la réalisatrice du film qui, à la base, a fait des photos dans ce bar, a fait toute une série de photos, et qui s'est liée d'amitié avec la tenancière du bar, qui s'appelle Nathalie. Elle s'est rendue compte qu'il y avait tout un univers dont on pouvait parler, qu'il y avait toute une galerie de personnages très intéressants qui pouvaient s'y développer. Et voilà, le film s'est fait dans un contexte un peu particulier pour le bar, parce que le bar était en...
On va raconter ça.
Voilà, on va raconter un peu ça, mais le bar était en cours de revente. Et donc, c'est une période assez particulière pour la tenancière c'est un secret du film alors elle le dit dans le dossier de presse, donc c'est pas quelque chose de privé, mais la Nathalie qui avait arrêté l'alcool avant le tournage et a repris pendant le début du tournage, donc il y a tout un je pense qu'il y a tout un contexte qui donne, à mon avis, beaucoup corps au film. Je sais pas ce que t'en as pensé.
Ouais, alors c'est un film qui est un témoignage sur la ville, mais qui se focalise effectivement sur le bar et sur la tenancière du bar, qui a un charisme fou. Cette femme a entre 40 et 50 ans, je veux dire, mais c'est à la louche, je ne peux pas vraiment identifier son âge. Elle est très dynamique, elle a envie de faire plaisir à ses clients qu'elle connaît particulièrement bien. C'est une brune dont on sent l'attirance pour l'alcool, de façon parfois pas trop contrôlée, mais ses démons intérieurs, elle les connaît, elle essaye... quand ça va bien, de les maîtriser. Quand la réalisatrice, qui est au départ photographe et toute jeune, c'est son premier film, va dans ce bar, c'est parce qu'elle aime bien photographier images fixes. On est à Arles, les bars, et c'est d'ailleurs lors d'un festival qu'elle commence effectivement à faire ses repérages. Puis on lui conseille effectivement de rester un petit peu plus longtemps là-bas. Mais ça aurait dû être... Dans un cas normal, juste des photos d'un bar. Et là, ça éclate complètement parce que c'est en fait un effet de loupe qui arrive. Je disais, Arles change et elle est confrontée, la réalisatrice, à tous ces changements. Le bar aussi est confronté à tous ces changements. La ville devient un centre d'attractif et de promotion immobilière. Effectivement, le bar... Il est loué, c'est une location, le bail arrive en fin de course, il faut renouveler le bail, et les propriétaires ne sont pas fous. Ils voient bien que leur petit local, il est peut-être un peu défraîchi, mais il a pris quand même une sacrée valeur. Et à quoi bon continuer de recevoir un tout petit loyer, alors qu'on peut en tirer un maximum de bénéfices? Donc, au départ, la série de photos... Elle devient intéressante, on peut peut-être passer à la caméra et faire un film avec des images qui bougent. On a tout d'un coup un basculement de l'image qui passe, je dirais, de photos avec un lourd passé culturel quand même, parce que les photos de bar, on connaît Brassailles, mais les photos de bar à Arles, on connaît Van Gogh. Et effectivement, tout ça, ça baigne quand même dans le film. On a bien cette ambiance qui se dégage. Avec cette Nathalie qui nous rappelle quand même la serveuse d'Arles de Van Gogh, tout d'un coup, on a ce regard qui se tourne vers la misère des petites gens. Et c'est très beau parce que ça fait écho aussi à ce qui se passe dans le quartier. Les clients du bar, ce sont des gens qui aiment aller à la pêche le dimanche, se retrouver... pour chanter a cappella ou de morceaux populaires. Et puis, tout le monde prend soin. Tiens, un tel n'est pas venu, il est malade, ou faut peut-être lui apporter un peu à manger. Comment il finit son mois? Donc, il y a quelque chose de profondément tendre dans le regard de la réalisatrice. Et on a affaire à des tranches de vie qui parlent énormément de ces entre-deux où on ne sait pas ce qu'on va devenir dans une ville qui ne nous ressemble plus. Très, très, très chouette moment où il y a ces flottements et puis cette lumière. Et puis,
Oui, donc son travail de photographe se ressent quand même beaucoup dans le film.
Ah, tout à fait. C'est un documentaire passionnant.
Finalement, malgré son passé de photographe, il y a quand même quelque chose de très cinématographique qui arrive à s'en dégager. Malgré le fait que son passé de photographe se voit, est-ce que finalement elle arrive quand même à se dégager de ça pour proposer quand même une vraie proposition de cinéma?
Très clairement, je pense qu'il y a eu le réel qui écrit ses propres récits. Et effectivement, cette course pour récupérer le bail, faire perdurer le plus longtemps l'exploitation commerciale du bar, ça devient une enquête tout à fait cinématographique. Là, on n'est plus du tout dans le reportage photo. On reste à l'intérieur du bar et on voit les émotions, les montagnes russes de Nathalie. Et ça, c'est cinéma. Il n'y a pas photo.
Et puis ouais, tu parles justement, ouais, alors c'est ça la force du documentaire aussi, ouais. C'est quand aussi les événements s'offrent à toi et te donnent toute une grande possibilité de possibilités artistiques en fait. Et je dis ça parce que de ce que j'ai lu, le film ne devait pas être à la base centré sur Nathalie. elle devait être centrée sur leur fils au départ.
Oui, alors le fils aussi, vous verrez, il est censé reprendre le bar, mais de toute façon, le bar ne peut plus être repris puisqu'il n'y a plus d'exploitation possible, d'exploitation commerciale. Alors, on va voir que, en fait, tout le monde dans le quartier s'y mêle. Il y a même les avocats, etc. Et effectivement, il y a un bail commercial, mais il y a aussi le logement. Donc, tout n'est pas synchronisé dans la fin. J'ai cru comprendre que tant que Nathalie pouvait et son fils pouvaient rester au-dessus du bar, on ne pouvait pas vraiment le louer commercialement à quelqu'un d'autre. Et donc, il y avait une certaine tolérance, on va dire, pour des tournées générales en bas. Mais là, c'est définitivement fini depuis un mois et demi, deux mois, au moment de la sortie du film. Malheureusement, là, on est passé à une autre histoire. Le bar n'est plus le même.
Oui. Bah, et puis aujourd'hui, le bar a fermé. Il a fermé très récemment, ce qu'il a fermé il y a un peu plus d'un mois. Il a fermé le 15 mars 2023. Voilà, le film est déjà en fait quelque part un film de souvenir, quelque part d'une époque qui a été révolue. Voilà.
Mais c'est ça qui est très bien, parce que généralement les films nous montrent deux étapes stables, ouais. La perturbation, c'est ce qui fait avancer le récit, mais là c'est tout le contraire. On est dans la perturbation totale, et à nous d'imaginer un peu ce que c'était avant, ce que c'était qu'après.
C'est ça. Parce que toi, tu as vu le film au moment de Cannes, donc le bar n'avait pas encore fermé à ce moment-là.
Le bar avait fermé officiellement. D'accord. Officieusement, il continuait de faire la rumba.
D'accord, ok. Bon, là, ça a fermé aussi officieusement, disons. Mais du coup, je pense que voir le film quand on sait que le bar n'est plus là, je pense que ça peut rajouter une certaine émotion, je pense, de voir un lieu qui n'est plus donc un lieu de vie où la vie n'est plus actuellement dans ce lieu-là, donc c'est oui.
Alors j'avais vu l'année dernière le film au mois de mai. Il nous avait tellement touchés, on est allé à Arles après, en juillet.
D'accord.
Et en juillet, bah, effectivement, on s'est dit, faut aller voir le bar.
Oui, bien sûr.
Et c'était devenu un lieu un peu touristique, parce que il y avait des petites étiquettes de 5 cm sur 3. Le film a été tourné là.
Oui, il y a quand même eu un peu une petite publicité.
Il y a eu une petite résistance locale, mais c'était... la page était déjà tournée.
Est-ce que du coup, alors, t'as pu boire un verre dans ce bar, non ?
Non, on n'est pas rentré.
Non. Et du coup, j'ai plus qu'à vous fortement encourager à aller voir le film jeudi à 20h30 en présence de Thomas Polo dès 19h30 pour qu'on puisse boire un coup tous ensemble, qu'on puisse discuter tranquillement et qu'on se mette dans l'ambiance du film en toute douceur. Voilà.
Exactement. Avec les rires, les chansons et
tout à fait.
Populaire.
Donc ça sera une super expérience. Donc à jeudi à 19h30, pas 20h30 d'ailleurs du coup. Avant de parler du retour des hirondelles, on va écouter l'extrait de bande originale d'un grand film chinois et une grande bande originale, vu qu'on va écouter un extrait de la musique de In the Mood for Love de Wong Kar-wai. Voilà, on se retrouve tout de suite après.
Thank you.
de retour dans Au fil des bobines sur Studio ZEF 91.fm. On enchaîne tout de suite avec le film Le retour des hirondelles de Lee Rujin.
C'est aussi un retour pour cinéphiles.
Oui, exactement, parce que le film a été déjà programmé et il a eu un grand succès dans une programmation de cinéphiles au lobby. Et vous avez été plusieurs à nous demander de le rediffuser. Donc c'est chose faite, nous le rediffusons la première semaine du mois de mai pour deux séances.
Alors c'est le rattrapage, hein. Faudra pas le rater. Hein.
Exactement, là, c'est les dernières séances du film. Le film a déjà été présenté, on a eu un événement sur le film. Florent Boutet, critique aux Fiches du cinéma, est venu nous faire une très belle présentation du film ainsi qu'une belle discussion. On a appris beaucoup de choses sur le contexte, tout ça. Et en parlant, on va essayer peut-être de vous retranscrire comme on peut ce qu'on a appris pendant cette séance. Le film, de quoi il parle, Guillaume ?
De la Chine, de la Chine rurale et de la politique de logement chinoise. Mm-hmm. On peut dire ça en gros, mais c'est encore une fois un regard sur deux héros du quotidien, mais des anti-héros du quotidien plutôt, puisque lui, il est considéré comme étant un peu exclu, solitaire, un vieil ours mal léché, et la jeune fille à qui il est destiné, c'est une handicapée considérée comme elle idiote par le village. Et donc au départ, ces deux bêtes sauvages sont pas faites pour attirer la compassion des gens, hein, franchement.
Et surtout, en plus, son amour est au départ en plus un mariage arrangé.
Oui,
en fait, c'est pas au départ un mariage d'amour, c'est quelque chose qui va le devenir au fur et à mesure parce que on va vraiment suivre leur quotidien et on va voir que.
Qui
se respectent beaucoup entre eux, qui se soutiennent énormément entre eux, et que malgré qu'au départ ça partait pas d'une volonté d'avoir un mariage d'amour, l'amour se crée de lui-même tout seul au fil de juste des situations et au fait du vécu qu'ils vont avoir en commun tous les deux, et de la difficulté qu'ils vont vivre chacun ensemble.
Oui, c'est la tendresse contre le monde très dur, hein, oui. On pourrait dire.
Hein. Exactement.
Et c'est un très beau film.
C'est un film vraiment magnifique qui prend son temps tranquillement pour pouvoir montrer, pour pouvoir qu'on comprenne aussi le contexte dans lequel sont leurs personnages. C'est un film qui est assez contemplatif parce qu'il prend son temps à montrer cette ruralité chinoise, justement.
Oui, en même temps, on n'est pas en Chine tous les jours. Donc, ces images sont assez resplendissantes et franchement c'est un plaisir de voir cet homme créer sa propre maison de ses propres mains, les relations avec les animaux, le pain, l'eau, honnêtement cette obsession de filmer le détail m'a semblé tout à fait jouable et en même temps, ça correspondait bien aussi à une dimension un peu onirique, conte, parce que ce film-là n'est pas un récit réaliste. C'est quelque chose qui ressemble à une grande fable,
oui.
Mais pour adultes.
Oui, exactement. Mais oui, c'est, et j'aime beaucoup en fait aussi comment il montre une certaine dureté, mais aussi une certaine douceur qu'il peut y avoir dans ce contexte de ruralité. Et aussi, j'aime beaucoup le parallèle qui est fait justement avec la vie urbaine. Et notamment, voilà, il y a une scène où les personnages se retrouvent à visiter un appartement.
C'est la grande scène, hein. Tout le monde ville. En parle.
Beaucoup de gens parlent de cette scène. Ouais, je pense que quand on la voit, elle marque parce que. Elle est violente. Je trouve cette scène.
Elle est
pas violente dans ce qui se passe.
Symboliquement.
Elle est violente symboliquement parce que voilà, on a ce couple qui sait pas du tout, qui voit bien qu'ils ont rien à faire là, mais où on leur fait comprendre qu'il va falloir qu'ils obligent à changer.
Ce sont des agriculteurs qui ont leurs poules, donc leur poulailler, ils ont leurs cochons, ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils ont un pied-à-terre, forcément, pied-à-terre qu'ils ont construit de leurs propres mains. Et on leur dit, la politique de chinoise, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de paysans pauvres. Donc vous allez monter dans les étages. Ils sont dans un superbe appartement avec une superbe baie vitrée, mais qui correspond à rien parce que les animaux ils sont 50 étages plus bas.
Donc c'est ouais,
il y a rien quoi.
C'est pas leur monde et enfin voilà, je trouve la violence est beaucoup sur comment eux ils sont filmés placés dans cet appartement où on les sent complètement perdus. Et étranger dans ce monde-là en fait et voilà on parle du coup le film a quand même un message politique du coup assez fort.
Il a été censuré.
Voilà, c'est ce que j'allais en venir justement. Le film a eu des problèmes en Chine. En fait, il est sorti d'abord tranquillement alors ma théorie c'est que je pense que le gouvernement chinois pensait pas que le film allait avoir le succès qu'il a eu parce qu'il se trouve quand il est sorti le film a fait beaucoup parler de lui. Et a vraiment bien marché en Chine, en tout cas par rapport aux films qui marchent en Chine. C'est pas forcément ce type de film du tout qui fonctionne dans le box-office chinois.
C'est pas des films qui parlent de la ruralité. Voilà. En gros, de toute façon, la ruralité est un vrai problème chinois parce qu'on sait que le problème de contrôler le peuple, il est beaucoup plus facile, aisé avec des systèmes de reconnaissance urbains que dans la campagne où il y a les maisons individuelles, les pains de terre et où chacun arrive à survivre hors l'État.
Oui, tout à fait. Et donc, ouais, le film a eu... après qu'il y a eu ce succès-là, le gouvernement chinois, je pense, a eu un peu plus d'inquiétude et a retiré le film des salles tout de suite. Et le réalisateur, il a eu quelques soucis judiciaires aussi derrière. C'est un film qui a posé problème dans son pays et c'est toujours le problème des films des films politiques de certains pays, c'est que ils sont pas vus par ceux qui devraient... le film il est fait pour le public chinois et pour justement dénoncer ce problème de ruralité et finalement il sera surtout montré dans des pays hors Chine, quoi. Notamment en Europe où il a fait, et en France où il a fait un joli score. Il a fait plus de 100 000 entrées en France, qui lui situe dans le top 10 des films chinois qui ont le mieux marché en France, donc c'est vraiment pas rien.
De toute l'histoire ou de ces 10 dernières années?
Non, de toute l'histoire. En tout cas, c'est Florent Boutet qui m'a donné cette info-là. Le film fait partie du top 10 des films chinois qui ont le mieux marché en France. Voilà, 100 000 entrées, c'est pas énorme, mais voilà. C'est pas énorme à l'échelle
chinoise. Clairement.
Non, mais par rapport au succès dont les plus grands succès français, 100 000, ça fait descendre très loin. Mais pour ce type de film, c'est vraiment un vrai gros succès, quoi. Et donc c'est chouette que ce film-là fonctionne, mais c'est triste qu'il ne sera pas vu par beaucoup de Chinois, vu qu'il est resté très très peu de temps en salle. Mais voilà, tout le film a beaucoup d'intérêt pour ces raisons-là, notamment. Voilà. Mais j'aime beaucoup aussi tout le travail qui est fait sur la matière, dans la réalisation. Il y a toute une face, voilà, ce qui construit sa maison de ses propres mains. Donc voilà, le film est aussi, on dit que le film est politique, il est violent dans ses messages politiques, mais c'est aussi un film, on l'a dit aussi, qui met beaucoup de douceur, notamment dans sa mise en scène. Donc je dis, quand il construit sa maison, c'est... il a une manière de filmer ça de manière très naturelle et on... on, on, on on se sent comme avec lui, proche de la terre, quoi. Il y a quelque chose de très organique, voilà, dans sa façon de filmer. Ouais. Je sais pas ce que t'en, si tu l'as ressenti de cette façon-là aussi.
Ah si, si, si. Les éléments, en règle générale, sont extrêmement bien filmés. Et c'est un film poétique, politique. C'est un équilibre qui n'est pas si évident que ça à voir. En tant que spectateur, quand on tombe sur un film pareil, on est toujours très, 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 très réjoui. On est surpris dans le bon sens du terme.
Complètement. Et voilà, pour ça aussi un peu de conclure, je vais parler un peu du casting, parce que là, lui, là aussi, il est intéressant, le casting.
Oui.
Donc, les deux acteurs principaux du film, ça, alors, c'est Wu Renlin et Ekwing, j'espère que je ne les écorche pas. Alors, Ekwing, en fait, est une actrice très connue en Chine.
C'est
une star en Chine, vraiment, assez populaire. Ce qui a contribué, je pense, à que le film ait un premier succès au départ dans les salles chinoises. Je pense que ça a contribué. Mais son partenaire masculin, Wu Renlin, est lui pas du tout un acteur, était véritablement un agriculteur. Donc il y a un parallèle des deux qui je trouve, alors quand on le sait pas, est vraiment invisible. C'est-à-dire que c'est...
Les deux sont très bien.
Les deux sont extrêmement crédibles, convaincants et...
Alors, ce qui est très étonnant, c'est que la star chinoise, que nous, on connaît très mal.
Moi, je ne la connaissais pas avant.
Mais là, elle ne fait vraiment pas du tout glamour. C'est vraiment la polyhandicapée qui a des problèmes d'incontinence dès le début du film. Donc, c'est vraiment pas Huppert, peut-être, pourrait jouer ça.
Et encore, je pense qu'il y aura quelque chose qui ne soit pas assez naturel.
On est d'accord. Est d'accord.
Après, bon, peut-être
c'est
vous.
C'est des obsessions Huppert qui sont capables de jouer tout, mais à chaque fois, il faut que ça soit crade.
Après, c'est peut-être le fait que nous, qu'on la connaît pas qui nous donne aussi cette impression. Voilà. Mais oui, elle est extrêmement connue. Moi, j'aurais presque dit l'inverse, en fait, si on m'avait posé la question lequel des deux est un acteur très connu dans son pays et lequel des deux n'est pas du tout un acteur. J'aurais presque dit l'inverse, quelque part. Parce que elle fait plus vraie que nature, quoi. C'est une très belle personnage d'actrice. Et lui, malgré le fait qu'effectivement, sans jouer son propre rôle, il joue quelque chose qu'il connaît, disons, là aussi, en termes de jeu, en termes d'émotion qu'il transmet, c'est assez fort. Notamment, plus le film avance et plus je trouve il y a beaucoup d'émotions qui transpirent dans ce personnage, sans rien dévoiler du film, mais c'est quelque chose qui se booste au fur et à mesure.
Mais quand on parlait de la poésie, moi je pense par exemple à la scène où il charge le foin sur la charrette.
Oui.
Effectivement, c'est pas un acteur. C'est un paysan qui charge le foin sur la charrette. Il faut voir comment il monte dessus, comment il fait sa pyramide, etc. Et c'est ça qui fait la magie poétique. Parce qu'on ne sait plus où on est. C'est complètement la fable, donc on n'est pas du tout dans le réalisme. Mais le geste est un geste réel.
Exactement. Et je crois qu'on va se quitter sur cette belle dernière phrase qui je trouve, conclut bien le film. Est-ce qu'on en pense? Donc voilà, on n'a plus qu'à vous fortement vous conseiller d'aller voir ce film pour les deux dernières séances de la première semaine du mois de mai. J'espère que vous serez émus autant que nous on l'a été. Sur ce, je vous laisse et on vous souhaite à tous de très bons films et une très bonne journée. Au revoir.